Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Avec l'histoire d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'atmosphère d'après 1968 et prendre la route de Katmandou. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Philippe Glohagen. Ça vous dit quelque chose ? Forcément. Sa binette est sur la quatrième de couverture de tous les guides du routard depuis 45 ans. Et pour cause, c'est lui qui a inventé le routard. Bonjour Philippe Glohagen.
Bonjour.
J'ai tiré mon histoire du livre que vous avez publié il y a quelques années qui s'appelle Une vie de routard aux éditions Calman Lévy. J'ai choisi de raconter le tout début de votre histoire, de votre premier voyage en stop à 17 ans en 1968 jusqu'à la sortie du premier guide du routard. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Philippe, Philippe Glohagen. Je suis breton du sud du Finistère par mon père et berrichon de la région de La Châtre par ma mère. Mon père, fils de paysan, était instituteur. Il dirigeait une école catholique privée à Meudon, près de Paris. C'est là que j'ai grandi. Chez moi, les vacances étaient un rituel sacré. Ça a compté. Tous les étés, dans la traction familiale, on partait au bord de la mer. En Bretagne, dans les Landes, sur la Côte d'Azur. Et puis le samedi, j'allais aux séances de connaissance du monde, à la salle municipale de Meudon. Ça aussi, ça a compté. Adolescent, le soir, j'écoutais une émission culte sur Europe numéro 1. Campus, de François Jouffa.
Campus.
Et ça aussi, ça a nourri mon désir d'évasion. Ah, il faut que je vous dise, j'ai eu mon bac en 1968. J'ai adoré 68. Cette explosion folle du monde des adultes, j'ai trouvé ça génial. Et c'est juste après, durant l'été 1968, j'avais 17 ans, que j'ai fait mon premier voyage tout seul. Cet été-là, officiellement, mon père m'envoie en Angleterre pour un stage de langue avec mon copain Jean-Pierre. Le 4 juillet 1968, au soir, à 23h, il me dépose à la gare du Nord. Et dans le train pour Calais, je dis à Jean-Pierre « Et dis donc, Jean-Pierre, si au lieu de suivre notre stage de langue, on faisait le tour de l'Angleterre en stop, jusqu'en Écosse, ça te dit ?» Il dit « Ok ». Et c'est comme ça qu'à 17 ans, je passe ma première nuit de routard à Portsmouth, à la recherche d'une piole. Vers minuit, on tombe sur un bobby. « Que faites-vous dans la rue à cette heure-ci ? » ?»« We are French. We are looking for a room, but not expensive. » Allez à l'armée du salut. Ah, c'est aussi, c'est tout ce qui est ouvert. Et on se retrouve dans un dortoir, entre deux prostituées et des clochards avinés. Je n'ai pas dormi une minute. Et cette expérience a pas mal compté plus tard dans mon désir de créer un guide pour ceux qui font la route. En tout cas, quand je suis rentré de ce voyage en Angleterre, mes parents m'ont trouvé changé. Et après, je suis parti à Pampelune, au Pays Basque espagnol. Et là-bas, j'ai rencontré un Américain, Hort Elliott, qui m'a traîné jusqu'en Andalousie où son père avait une villa. Et à midi, chez lui, je me lève avec la gueule de bois et dans le salon, je tombe sur un petit bouquin. « Europe on $5 a day. L'Europe à $5 par jour. Un petit guide, pas cher, pour les hippies. Et ce petit livre est en quelque sorte l'ancêtre de mon guide du routard. Comme le bac de 68, ça c'est de notoriété publique, ne valait pas grand-chose, l'année d'après je passe un deuxième bac. Et quand arrive l'été 1969, j'ai donc 19 ans. Et je repars, bien sûr. Je rêve d'aller en Turquie, à Istanbul. Et je pars vers l'Est, et après on verra. Je prends le métro, je vais jusqu'à Charenton-École, je sors du métro, et je me colle à la porte de Charenton. Je tends le pouce, Et une demi-heure après, une voiture s'arrête. Une jolie femme, la quarantaine, dans une 404. Monte ! Et comme ça, j'arrive à Venise. Et puis à Split, en Croatie. Et là, un soir, je tombe sur des camionneurs soviétiques. Des tatoués.
Oui, go to Dubrovnik.
Les types ne sont pas très engageants. Mais je monte. Et au bout d'une demi-heure en pleine montagne, ils s'arrêtent devant une auberge paumée pour aller se pinter à la bière. Je somnole en les attendant. Une heure plus tard, on reprend la route. On fait quoi ? 40 kilomètres ? Bam ! On manque de verser dans le fossé. La bière. Là-dessus, on tombe en panne. Il répare. On repart. Un peu plus tard, un pneu explose. Et à un moment, bah, je les abandonne. Ce matin-là, figurez-vous, le 11 juillet 1969, c'est le jour où l'homme a marché pour la première fois sur la Lune. Et moi, je me retrouve à Skopje, fatigué et légèrement déprimé. Je me poste à la sortie de la ville, et comme personne ne s'arrête, je me mets à marcher. Et j'arrive dans une forêt. Et là, pour être honnête, j'ai un petit coup de mou. Je me demande ce que je suis venu chercher là, quoi, à toujours marcher de l'avant. Et puis j'ai faim. La faim est la maladie de l'autostoppeur. Bon, la règle est simple, hein. C'est toujours aux heures des repas qu'un conducteur propose de vous emmener, et c'est toujours quand les bars et les restaurants sont fermés qu'il vous dépose. Et soudain, je suis là, au bord de la route, dans cette forêt à broyer du noir. Et j'entends au loin une mobilette qui arrive. Une meule Peugeot qui s'arrête pile devant moi.
Salut, je m'appelle Patrick, je suis français. Et toi ?
Ben salut, moi c'est Philippe, je suis français aussi.
La magie des voyages de routard. Il sort un quignon de pain de sa poche, un pot de confiture et on partage. Je n'avais pas mangé depuis 24 heures.
Tu viens d'où avec ta mob ?
Ben je viens de Saint-Brieuc.
Et tu vas où ?
Ben Istanbul.
Saint-Brieuc, Istanbul, en mobylette. Et là, il me raconte qu'il a pris la route avec un appareil photo et qu'il l'a jeté à la mer il y a deux jours, à Dubrovnik.
Ouais, tu vois, j'ai réalisé que cet appareil, ça m'empêchait de rentrer dans mon voyage, quoi. J'étais toujours à l'extérieur, tu vois, à l'affût des beaux paysages, au lieu de faire corps avec l'endroit.
On parle trois heures comme ça et on se donne rendez-vous à Istanbul.
On se retrouve devant le consulat.
Et à Istanbul, je vais direct au Pudding Shop, où se retrouvent tous les routards et les babas et les beatniks en route pour les Indes. Il y a un grand panneau à l'entrée avec des messages. Cherche équipier pour traverser l'Iran. Accepte place dans voiture pour Kaboul. Ça part pour le Pakistan, pour l'Inde, pour le Népal, pour Goa. Pour Katmandou.
Et je retrouve Patrick, devant le consulat. Ah, Philippe, oh, c'est bien que tu sois là. Bon, ma mob est naze, hein. Je m'en débarrasse.
On trouve un vendeur de souvenirs pour racheter la mobilette, $30. Et là, Patrick m'annonce son programme.
Avec les $30, bah, je vais m'acheter un âne, et puis je vais aller jusqu'en Israël, et de là, bah, je ferai le tour de la Méditerranée.
Et moi, je rentre à Paris. Je vais rejoindre mes parents près d'Orléans. Ils ont une petite maison de campagne. Je débarque dans le village avec mon sac à dos, un grand chapeau et une veste en peau de mouton achetée au bazar d'Istanbul. J'ai le pouce en l'air et là arrive la camionnette du boucher. Je le connais depuis 10 ans. Il me reconnaît pas.
Je prends pas les manouches.
Pendant tout le voyage, j'ai tenu un carnet. J'ai écrit ce que je ressentais. Sur la dernière page de ce carnet 1969, l'année de mes 18 ans, j'écris. Mon voyage a duré 48 jours. J'ai discuté avec des jeunes de 20 nationalités différentes. J'ai parcouru 9000 kilomètres, dont 300 à pied. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu peur. Mais c'est formidable. Ça vaut le coup de savoir, de l'avoir vécu. de l'avoir fait. L'été qui suit, je ne pars pas. Je me consacre entièrement à mes études. Je veux rentrer en école de commerce. Et c'est là que je rencontre Michel Duval, avec lequel je vais écrire le premier guide du routard. Michel, il est comme moi, il a la passion de la route. Lui, à 17 ans, il est parti seul aux États-Unis. Et l'été prochain, il veut y retourner. Et moi, je veux aller en Inde. Ce sont les Beatles qui m'ont donné envie des Indes. D'abord, la sitar de Ravi Shankar dans l'album Sgt. Pepper's. La retraite des Beatles dans un ashram au nord de l'Inde. Et donc, début juillet 1971, je suis de retour à Istanbul et je vais tout droit au pudding shop, accrocher un petit papier sur le tableau dans l'entrée. Cherche équipier pour traverser l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Mais les jours passent, aucune réponse. Alors tant pis, je pars tout seul, en train, en direction de la frontière iranienne. Et c'est dans ce train que je découvre la misère du monde. Mes parents m'en avaient parlé, mais elle est là sous mes yeux. Tous ces enfants au crâne rasé qui se jettent sur le train à chaque arrêt et qui réclament une petite pièce.
Une petite pièce, monsieur. Une petite pièce.
Ensuite, je prends un bus et à la frontière iranienne, je rencontre deux routards français. Et on arrive à Téhéran, en Iran, à 4 heures du matin. On finit la nuit sur une pelouse et au petit matin, on se trouve un hôtel borgne près de la gare. Et quelques semaines plus tard, j'arrive en Inde, à Bénarès, ville sainte sur le Gange. Et là, dans le vieux quartier, je croise un gamin. Il a repéré ma montre.
Viens chez mon père. Si tu veux, il t'achètera la montre. Il te donnera de l'argent.
J'y vais. J'ai besoin d'argent.
Je vous propose 300 roupies. Vous rigolez? C'est une IMA. J'en veux 900.
Et là, le type sort de sous son étal un catalogue de la redoute. Ma montre vaut 300 francs. Alors il m'en donne 450 roupies. Et moi je me dis que le sentiment de supériorité guette tout occidental. Il faut beaucoup d'efforts pour s'en prémunir. J'avais rêvé de l'Inde. Eh ben j'y suis. Les vaches sacrées, les rickshaws, les troupeaux de buffles, le Taj Mahal. Je pensais qu'ici on pouvait atteindre la sagesse. Grâce à une spiritualité aux antipodes de la société de consommation occidentale. Mais je dois avouer quelque chose. Je suis déçu. La misère qui règne ici est insupportable. Elle est dégoûtante. Elle est révoltante. Et puis les hippies, on les croise partout dans un état de délabrement, de déchéance. À Goa, je croise un Américain shooté jusqu'aux oreilles, les yeux révulsés. À un moment, je crois qu'il est mort. Je n'arrive pas à plonger dans le mysticisme hindouiste, à m'abandonner à cause de la misère, des barrières sociales aussi. Enfin, c'est quand même un comble. En Occident, on veut bousculer notre société, établir plus d'égalité. Et dans ce pays dont on rêve, on est cadenassé par un système de caste, pesant, immuable. Alors oui, je suis traversé par des sentiments partagés. Vers la fin de mon voyage, je rencontre deux jeunes Françaises. L'une des deux, très jolie, me demande pourquoi je prends des notes tout le temps.
« Bah, je veux publier un petit guide en rentrant. Pour les voyageurs, les babacools, tu vois. »
Du coup, on s'échange des tuyaux et je m'aperçois qu'avec ce voyage, j'ai totalement changé de perspective. Je ne flâne plus. Cette idée de créer un guide a tout changé dans ma manière de voyager. Et en rentrant à Paris, je rédige mon guide avec Michel Duval. Lui écrit sur l'Amérique et moi sur la Turquie, sur l'Iran et sur l'Inde. Et puis je commence à aller voir des journaux, et notamment Actuel, organe central de la contre-culture à l'époque. Je suis reçu par le patron, Jean-François Bizot.
Bonjour. Voilà, j'ai fait l'Inde et Katmandou, et j'ai créé un guide pour voyager à bon marché. Cherche un éditeur.
Ah ben tu tombes bien. On fait un numéro spécial route pour le mois de juin. Tu pourrais écrire la partie sur l'Inde, sur le Népal et sur Ceylan.
Alors je fais un article où je donne tout un tas de conseils. Se munir d'une carte d'étudiant par exemple, même périmée, pour payer le train à moitié prix. Au Kurdistan, je conseille d'aller manger chez les religieuses françaises. Et je préviens qu'à l'hôpital d'Herat en Afghanistan, les toubibs sont douteux. Et puis je donne des adresses à Katmandou et des conseils sur la façon de se comporter en Inde. Et après la sortie du numéro spécial route d'Actuel, je me remets à chercher un éditeur. Chez De Noël, on me dit que je suis trop gauchiste. Chez Plon, on est encourageant.
Votre manuscrit sera examiné en comité de lecture.
Mais trois semaines après, on me rappelle.
Vous pouvez venir chercher votre manuscrit, hein. Il n'a pas été retenu. Vous comprenez, nous sommes l'éditeur du général de Gaulle, alors votre guide de routier à côté, c'est pas possible.
Et puis je finis par pousser la porte d'une petite librairie de Saint-Germain-des-Prés, la librairie Jeudalge. On me dit que son propriétaire veut éditer des livres modernes. Et donc je lui fais mon petit laïus, et là, le patron m'interrompt.
« Jeune homme, votre histoire de voyage, je n'y comprends rien. Mais mon adjoint ici présent me dit que c'est moderne, que ça plaira aux jeunes. Donc, si vous voulez, on se met d'accord pour éditer votre guide. »
Je suis fou de joie. Mon guide va être édité. Et on se met d'accord sur un titre. Ce sera le guide du routard. Un seul guide pour raconter le monde entier. On y donne par exemple des conseils pour faire du stop. Se tenir bien droit et non avachi. Paraître détendu, même si vous attendez plus de 3 heures. Ayez surtout un léger sourire aux lèvres, sans exagération. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je repars pour préparer une nouvelle édition. Et je repars en Amérique. Et j'arrive à New York. Et c'est un choc énorme. Parce que l'Amérique, chez les babacools, on crache dessus. Et là, je découvre un pays beaucoup plus intéressant que ce que j'imaginais. Je vais à Central Park à un concert de John Baez et Bob Dylan contre la guerre du Vietnam. Combat de boxe aussi, au Madison Square Garden. Et je vais voir jouer Charlie Mingus dans une boîte. Et puis je file vers le sud, vers le Mexique. Et quand je rentre à Paris, j'apprends une sale nouvelle. L'éditeur du premier routard est mort, écrasé par un autobus. Et là je me dis, c'est fini. J'envisage même d'ouvrir un restaurant au Quartier Latin. Mais un certain René Baudouin m'invite à déjeuner. Il vient de racheter tout le stock de la librairie Jeudalge, et notamment tous les routards invendus.
Qu'est-ce qu'on me dit? Que tu veux changer de métier? Mais t'es complètement con, enfin! Ton idée de routard est excellente, faut que tu t'accroches! T'auras l'air malin quand un autre fera le routard à ta place! Tu vas me faire le plaisir de chercher un autre éditeur, d'accord? Je vais t'aider.
Quelques temps plus tard, Baudouin organise une réunion avec, entre autres, le patron des guides Hachette. Je lui raconte mes désillusions.
J'ai fait le tour de tous les éditeurs. J'en ai vu 19, vous entendez? 19.
Personne n'en a voulu de mon guide du routard.
Et là, le type de chez Hachette se lève d'un bond.
Pour ce qui me concerne, jeune homme, je ne sais pas qui vous avez contacté chez Hachette. Mais vous n'êtes pas venu me voir, c'est certain. Parce que moi, ça m'aurait intéressé, votre guide du routard.
Et là, il me tend sa carte de visite.
Je voudrais vous voir le plus vite possible, jeune homme.
Eh bien, il nous en a commandé quatre. Quatre guides à sortir l'année prochaine. L'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. On a un peu hésité. Et finalement, on a dit banco. Et là, ça a vraiment commencé.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.